Pardon, merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, 100 ans après sa naissance, le 21 juin 1905, Jean-Paul Sartre, première partie, 1905-1945, les chemins de la liberté.
Il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment. Il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment.
Dominant d'histoire. Jean-Paul Sartre aura attendu 40 ans pour devenir à la fois l'écrivain français le plus engagé de son temps et celui qui, 25 ans après sa mort, suscite encore le plus de polémiques. Mais si aujourd'hui, même ceux qui l'ont suivi dans ses engagements les plus contestables admettent qu'il s'est beaucoup trompé, tout le monde reconnaît en Sartre un des auteurs les plus féconds du XXe siècle. Romancier, philosophe, dramaturge, critique, Sartre est l'auteur de 4 romans, de nouvelles, de 10 pièces de théâtre, d'une dizaine d'ouvrages philosophiques, d'une autobiographie, de scénarios de films et d'innombrables articles de journaux. Une œuvre gigantesque et qu'il nous laissait en héritage il y a 25 ans. France Inter, Didier Leca, le 16 avril 1980.
La philosophie puissante, le théâtre qui a drainé vers de grandes salles populaires toute une génération et même peut-être plusieurs, la littérature, les essais, le journalisme, l'œuvre que laisse Jean-Paul Sartre est considérable. Son nom restera parmi ceux des grands témoins du XXe siècle, quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur l'engagement philosophique, politique et personnel de l'homme, qui s'est prononcé sans réserve sur tous les grands problèmes qui ont agité la conscience française, l'après-guerre, l'Algérie, le Vietnam, la Tchécoslovaquie, Israël, mai 68, le Cambodge, la justice et les libertés.
Il n'écrivait pas pour faire plaisir, il écrivait pour penser véritablement, c'est-à-dire qu'il faisait penser des putains, il faisait penser les noirs révoltés, il faisait penser les arabes, et il nous faisait tomber de notre chaise, mais lui aussi il acceptait de tomber de son trône. Et c'est ça, c'est fantastique, c'est qu'il acceptait de descendre, et de se penser comme tout le monde, et donc de forcer tout le monde à penser que, avec lui, pas comme lui, avec lui.
Et c'était André Glucksmann, le jour de la mort de Sartre, le 21 juin 1980. André Glucksmann, en tout cas, le jour de la mort, pardon, de Sartre. Denis Berthollet, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Sartre, dont le dernier vient d'être publié chez Folio. Et vous, Bernard Lefort, bonjour. Vous avez écrit chez Ramsay, Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous. Alors, c'est un titre que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que du temps de Sartre, et qu'on l'ait aimé ou qu'on l'ait détesté, les Français n'étaient pas mous.
Ah oui, et puis je trouve, en écoutant cette voix inimitable de Sartre, métallique, c'est véritablement une voix d'intellectuel qui a disparu, une pratique d'intellectuel qui a disparu, et je crois que notre monde s'en porte moins bien.
Et vous-même, vous dites, Denis Berthollet, qu'il a déchaîné les passions en son temps, ça on le sait, mais même qu'aujourd'hui, 25 ans après sa mort, il déchaîne encore les passions. En tout cas, il suscite des polémiques comme rarement un philosophe ne l'a fait en France.
Il lui arrive cette chose, au fond, rarissime, si ce n'est unique, pour un écrivain, un grand écrivain, après sa mort, c'est que au lieu de sombrer dans l'oubli ou dans l'indifférence, il continue effectivement de susciter des réactions très fortes, c'est-à-dire qu'on l'aime, qu'on le déteste, et qu'il n'y a toujours, comme à l'époque où il était actif, présent sur la scène publique, pas de milieu.
Alors s'il a déchaîné les passions en son temps et encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus en raison de ses engagements politiques que de son œuvre écrite. Or, cet engagement, ses engagements politiques, n'arriveront que très tard. C'est un philosophe, un romancier qui ne s'intéresse pas tellement à la politique avant la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la vocation littéraire, la vocation d'écrivain vient très tôt. Et dans le cas d'une famille très singulière qui a très profondément marqué Sartre et son œuvre, il l'a dit à plusieurs reprises, et d'abord d'une famille sans père.
Je crois que la donnée est essentielle, au fond. Sartre a été orphelin quand il avait 15 mois, orphelin de père quand il avait 15 mois. Et c'est une absence qui pèse, je crois, d'un poids énorme sur l'ensemble de sa vie. Alors ça veut dire qu'il a commencé ses jours pour l'essentiel, on dirait aujourd'hui tout bêtement dans les jupes de sa mère. Hein. Mais il y a la personnalité même de son père, c'est quelqu'un qui l'a totalement effacé, si on veut, de sa conscience, et je crois que c'est un problème très 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 sérieux chez Sartre, mais cet absent, je crois, a été présent à travers toute sa vie.
Et en même temps, le bonheur d'être un instant, pendant un certain temps, seul auprès de sa mère, évidemment, qui le chouchoutait, c'était son fils unique, qui le surnommait Poulou. Et alors auprès d'un grand-père auquel, a-t-il dit, il a dû sa passion pour la littérature, Karl Schweitzer, qui était justement à l'origine de sa vocation, de la vocation de son petit-fils, comme le rappelait Sartre lui-même en 1976 devant la caméra d'Alexandre Astruc.
À cette époque-là, d'une part, j'ai dû imaginer d'écrire, parce que je lisais des illustrés, contre une espèce de fadeur d'ennui qui représentait plus tard ce que j'appelais l'existence. Et d'autre part, j'ai cru être chargé de mission par mon grand-père. C'est-à-dire comme s'il m'avait commandé d'écrire.
Mon grand-père me jeta dans la littérature par le soin qu'il mit à m'en détourner. Et puis le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit.
Ce que j'écrivais à ce moment-là, c'est tout simplement que je recopiais à peu près les journaux illustrés que je lisais par ailleurs. Mais à partir de 10 ans, c'est nouveau, c'est produit. 11 ans plutôt, parce que j'étais chez mes grands-parents et j'étais au lycée Henri IV, ma mère s'est remariée. Et ça a été certainement une période qui a tout changé pour moi, puisque d'une part, ma mère, qui était jusque-là entièrement dévouée à ma cause, et que je considérais un peu comme une grande sœur, ma mère a introduit quelqu'un dans ma vie, et en plus ce quelqu'un devenant le maître de mes destinées, je me suis trouvé partir à La Rochelle, où il avait été nommé directeur de chantier naval qui appartenait à la maison de René Belleville.
Et c'était Sartre racontant en 1976 le traumatisme qu'avait été pour lui le remariage de sa mère 60 ans plus tôt avec Joseph Mancy, directeur des chantiers de La Rochelle. C'est à ce moment-là, dites-vous, Denis Berthollet, qu'il découvre avec son beau-père que les pères sont des salauds.
Oui, alors ça a été une révolution terrible dans la vie de Sartre, parce qu'au fond, auprès de ses grands-parents et de sa mère, il vivait dans un paradis, et tout soudain, avec ce beau-père qui débarque, qui est un homme parfaitement normal, qui n'est pas plus salaud que n'importe quel autre, mais avec ce beau-père, il tombe dans le monde réel, il tombe dans le monde de l'économie, dans le monde des hommes, des institutions, et pour lui, c'est vécu, c'est habité comme la tombée dans les enfers.
Bernard Lefort ?
Oui, non, je vais simplement m'ajouter qu'il découvre tout ce que vous venez de dire, Denis, mais aussi la violence. Il découvre la violence alors que ses premières années étaient complètement protégées, et l'irruption de l'histoire se fait un peu, je crois, au moment de La Rochelle, enfin, lorsqu'il est à La Rochelle avec son beau-père. Donc c'est aussi un premier moment de rupture assez fort.
Oui, parce qu'il a été un petit enfant choyé, voilà. dans un monde tout de délices, en quelque sorte. Je dirais qu'il a vécu au sein du principe de plaisir, très schématiquement, et qu'il se trouve tout d'un coup face à la réalité, donc à la violence, donc à la cruauté de ses camarades, etc.
Oui, et de ses camarades qui se moquent de lui à cause de sa laideur qui l'a traumatisé à cette époque-là.
Oui, pour lui, ça a été extrêmement, évidemment, terrible. Ouais, de se rendre compte que
la coupure des cheveux, déjà, une fois qu'on a fait tomber ces fameuses boucles blondes.
Ces petites boucles de petite fille, tout d'un coup, il est un petit garçon pas beau. Et avec un problème, avec un œil qui était pratiquement mort dès ses 4 ans. Pour lui, donc, ça pose un problème de politique, mais pas au sens de conduite de sa vie, ça veut dire qu'il a fait le choix de la séduction.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et de la séduction, non pas par le physique, puisqu'il est laid et qu'il en est conscience, mais par l'intelligence, par le travail, par des qualités littéraires qui apparaîtront très vite, d'abord à Henri IV, hein, et puis à l'école normale supérieure, où alors il rencontre, comme le disent les normaliens, ses petits camarades, et ses petits camarades, c'était pas n'importe qui, c'était une promotion extraordinaire, celle dans laquelle est Sartre. Denis Berthollet.
Ah oui, je pense la plus connue du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on a Sartre, qu'on a Aron, qu'on a Canguilhem, qu'on a
Nizan.
On a Nizan, on a véritablement un vivier dans cette seule et unique année de l'école normale, on a un vivier absolument extraordinaire et qui a marqué quand même la deuxième moitié du XXe siècle.
Nizan, dont il était le plus proche, dites-vous, à tel point que dès Henri IV, puis il se retrouve à Normal, on les appelait Nitre et Sarzan. Hein. C'était vraiment
quasiment... Ils ne touchaient pas de la même façon. Voilà, c'est divergent, l'on s'en convergent, je crois.
Et puis, mais il y avait quelque chose de gemellaire, effectivement. Ils se sont formés mutuellement, intellectuellement.
Alors, autre petit camarade ou petite camarade, c'est celle qu'il ne quittera jamais après sa rencontre avec elle, Simone de Beauvoir, que l'on écoute ici rappeler, justement, le Jean-Paul Sartre qu'elle a rencontré à l'école normale en 1929.
En quoi il était tellement différent des autres?
Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois aussi peut-être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quel étudiant, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune philosophe. Ça, c'était mademoiselle, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et il avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et je l'avais ricané. Ceci dit, quand je l'ai connu, ça a été très différent. Dès que je suis entrée dans la tour de la cité universitaire, alors, j'ai vu quelqu'un qui était au contraire extrêmement gentil avec tout le monde, très généreux, qui faisait des tas d'explications sans erreur sur aucun bénéfice, et qui était très amusant, très drôle, qui chantait des tas de chansons d'Offenbach et autres. Enfin, c'est tout à fait un autre personnage que celui que voyaient les Saint-Bonnard.
Notre école est une serre dont les cubes sont les fruits. Les carrés, leurs bons amis, en sont la fleur printanière. Les conscrits sont le fumier dont le sol doit s'engraisser. Ah, 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 ah. Quand on pense que les femmes qui sont des êtres charmants ont pu porter dans leurs flancs ces conscrits monstres informes. À vous dégoûter vraiment du devoir d'engendrement. Notre école est une cage dont les cubes assemblés sont les aigles. Les carrés sont les vautours pleins de rage. Les conscrits seraient les faucons s'ils n'étaient pas de vrais cons.
Ah, et c'était, vous entendez, les quatre barbus, la chanson des conscrits, qui était la chanson traditionnelle de l'école normale, les carrés, les conscrits, cette chanson pleine d'humour que Sartre devait chanter. On découvre dans votre livre d'Élie Berthollet, et dans ce qu'a dit d'ailleurs Simone de Beauvoir, en parlant de Sartre à l'école normale, un personnage qui peut surprendre aujourd'hui quand on l'imagine, c'est d'un Sartre plein d'humour, très drôle.
Mais oui,
séducteur.
Mais un potache, c'était une seconde nature chez lui. Ces années d'école normale, je crois qu'il faut y insister. Il a retrouvé le paradis de son enfance.
Tout à fait, même une première nature, à mon avis.
Une première nature, oui, tout à fait. Donc il était comme un poisson dans l'eau dans ce monde-là. Et ça a été des années de bonheur pour lui. Mmh. Il a participé très activement, c'est le moins qu'on puisse dire, à la vie de l'école normale. C'était un bon pianiste, donc il pouvait, dans les soirées, accompagner en musique ses petits camarades. Enfin, c'était des années de...
Oui, il jouait la comédie sur le théâtre de l'école normale, il faisait des petits films, il tirait à la carabine, et surtout il adorait, et ça c'est ce qui avait marqué son enfance peut-être, c'est le guignol tout simplement du Luxembourg.
Et puis alors un Sartre également, on l'a entendu, toujours dans la bouche de Simone de Beauvoir, un Sartre séducteur, dragueur, ce qu'il est resté d'ailleurs toute sa vie avec Simone de Beauvoir, avec laquelle il a formé un couple tout à fait étonnant, hein, ce qui à l'époque devait choquer, pas de mariage, pas de contrat, pas de vie bourgeoise, et surtout l'acceptation par les uns et par les autres d'aventures qu'ils avaient en dehors justement de leur propre aventure, et notamment toutes les femmes de Sartre qui se sont succédées dès cette époque des années 30. Il y a Olga et Vanda Kozakiewicz, il y en aura plus tard beaucoup d'autres. C'est très étonnant Denis Berthollet, vous l'évoquez, cette espèce de harem qui était autour de Sartre.
Alors c'était un non-conformiste absolu, si j'ose dire. Alors effectivement, il y a ce qu'ils appelaient d'ailleurs la famille. Donc pas de famille au sens bourgeois du terme, mais en revanche une famille qui était un circuit de personnes proches, plus ou moins proches, avec des maîtresses changeantes. Et il y a eu tout un réseau d'amitié et d'amour qui a bougé sans arrêt, qui a suivi Sartre au cours de sa vie. Mais c'est un homme qui est tombé amoureux sans arrêt.
Et jusqu'au bout de sa vie, après la guerre, il y aura Michel Vian, il y aura Dolores, il y aura Arlette, il y aura des copines.
Et les maîtresses chez lui, s'empilent de manière géologique.
Et elles s'acceptent
mutuellement.
Pas toujours.
Non, ça a été parfois très difficile.
C'est ce qu'ils appellent tous les deux leur fameuse amour contingente. Il y avait quand même le point de référence. C'était Simone de Beauvoir, les amours contingentes.
Avec des contingences très fortes.
Alors un séducteur pour ses camarades de l'école normale supérieure et même pour ses élèves au Havre ou à Neuilly après l'école normale à la fin des années 30 comme Jacques Laurent Bost.
On s'emmerdait pas dans sa classe, il était bon type, on s'amusait. La veille du jour où il prononçait le discours de distribution de prix au Havre, il s'était saoulé la gueule avec ses élèves de l'année d'avant. Il avait fini au bordel, vous couperez si ça vous dérange. Quand il le racontait, il disait « Je suis monté sur le ton d'une robuste putain ». Je me rappelle la forme. Tout le monde l'aimait bien. C'était quasiment un cours particulier, absolument ouvert. Et pour vous donner le ton de rapport, de familiarité qu'on avait avec Sartre, la mode était au rébus. On faisait des rébus au tableau noir et la syllabe « con » était invariablement représentée par un bonhomme qui avait un petit ballon qui sortait de la bouche et qui disait « Je m'appelle Sartre ». Sartre s'amenait, regardait le tableau et dit « ça, j'ai compris, je vois ce que c'est » et puis il cherchait le rébus.
Alors encore un professeur, après le normalien, un professeur non conformiste qui va quitter l'enseignement après le succès de ses tout premiers romans qui sont en même temps, d'ailleurs à un an d'intervalle, en 38 La Nausée, en 39 Le Mur de Nibertollet. Ce qui frappe aussi en vous lisant, c'est la cadence à laquelle il se met à écrire. Il n'arrête pas. C'est un homme plume, dites-vous.
Oui, alors Sartre charmeur, Sartre amusant ne doit pas faire oublier Sartre concentré, Sartre qui avait une tête extraordinairement bien faite et efficace, et c'est un homme qui a produit dès ses premières années d'activité quand il était professeur, de la philosophie, des romans, des nouvelles, un train d'enfer.
L'écriture chevillée au corps, oui, c'est vraiment l'homme libre, c'est vrai.
Il écrivait, c'était quand même, il y a les amours, il y a les femmes, mais il y a d'abord l'écriture.
Mais avant sans rature.
Et alors ce qui est frappant, c'est que c'est aussi l'écrivain qui semble passer à côté de son époque. C'est-à-dire que dans les années 30, on voit Nizan qui part au Parti communiste, on voit Malraux entrer dans, dans l'association des écrivains antifascistes, etc. Sartre, rien. Comme s'il ne voyait rien, ce qui est d'ailleurs d'autant plus grave qu'en 1933-34, il est en Allemagne au moment où le nazisme arrive, il est à Berlin, arrive au pouvoir, et on a l'impression qu'il ne le voit pas.
Je crois qu'il ne le voit pas, réellement. Pour lui, ce monde-là, le monde des nazis, appartient au monde de la politique, et le monde de la politique appartient à une partie du cosmos, en quelque sorte, qui lui reste totalement étrangère, dans laquelle il ne veut pas entrer.
Bernard Lefort ?
Je pense qu'il ne... Il voit, mais le mythe du grand écrivain, l'idée qu'il veut d'abord réussir par l'écriture. Je crois qu'il a envie, pour le coup, si on fait un jeu de mots, de se salir les mains. Et il a peur de se salir les mains. Et que donc l'écriture concentre tous ses efforts et qu'il veut se tenir à l'écart. Pourtant, il connaît Aron, qui est socialiste à l'époque, il connaît Nizan, qui est communiste. Donc, on peut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le monde, mais il ne veut le mettre à distance et attendre.
Il
croit qu'il y a une attente, je pense. C'est ça.
Mais même à l'époque du Front Populaire, enfin...
C'est vrai, il ne s'y intéresse pas, ou de très loin. Je pense qu'il a effectivement des sympathies.
Il a des sympathies, je dirais,
liées à son fond culturel, au fond de manière générale. Ça, c'est certain. Mais il n'en fait pas état, ça ne l'intéresse pas, il n'en parle pas, ça ne participe pas au travail en cours, qui est un travail de romancier et d'écrivain.
Alors même le début de la guerre semble laisser presque indifférent. Cela dit, il en est... victime, bon, pas très gravement, comme plus d'un million de Français, ils se retrouvent en captivité, prisonniers, au Stalag, et là, ils découvrent, Denis Berthollet, une autre camaraderie, évidemment, que celle de l'école normale supérieure, et que celle de sa famille, c'est la captivité, c'est le Stalag.
Alors ça, quelque chose de très ambigu, son expérience du Stalag, parce que je pense qu'il a retrouvé d'une certaine manière l'atmosphère de potache de l'école normale, mais effectivement dans des circonstances tragiques. Donc ça n'était plus acceptable, ça n'était plus possible de jouer ce jeu-là au premier degré. Donc à partir d'un certain moment, il a voulu en sortir et il en est sorti.
Tout à fait. Je crois que dans le Stalag, il découvre le collectif. Il l'a dit souvent, mais je crois que d'un seul coup, c'est plus le collectif protégé de l'école normale qui, pour lui, ont été des idées heureuses. Là, il se coltine avec des idées différentes, avec des sensibilités différentes. différente, et puis cette attente insupportable qu'il meuble en écrivant. Donc d'un seul coup, c'est le retour à l'histoire.
Et en écrivant le plus important ou la plus importante de ses œuvres philosophiques, sans doute, qui est L'être et le néant, Menu Bertolet,
qui est un vrai pavé énorme. Il commence effectivement dans son brouillon, en quelque sorte, là, au Stalag. L'essentiel de l'œuvre sera rédigé dans les années suivantes, pendant les années de guerre, à Paris, au Café du Flore. Et je pense que c'est la vraie résistance de Sartre, c'est d'écrire ce pavé philosophique qui sera essentiel pour les Français après.
Alors là, justement, il sort du Stalag en avril 41, non pas grâce à une évasion, comme certains sartriens l'ont dit, tout simplement parce qu'il s'est fait faire un faux certificat médical. Oui. Et alors, il découvre la France et le Paris de l'occupation et, paradoxalement, dit-il, la liberté. C'est ce qu'il disait plus tard, en 1944.
Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Et je ne parle pas ici de cette élite d'entre nous que furent les vrais résistants, mais de tous les Français qui, à toute heure du jour et de la nuit, pendant 4 ans, ont dit non. Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, une république s'est constituée, la plus forte des républiques. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui seul. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté, il choisissait la liberté de tous.
La liberté et l'occupation, ça paraît tout à fait contradictoire, Bernard Lefort, et on vient d'entendre dire, c'est la phrase peut-être une des plus connues de Sartre, nous n'avons jamais été plus libres que sous l'occupation.
Et oui, parce que sous l'occupation, le gouvernement légitime, la voix de la France n'existe plus. Sinon, c'est le de Gaulle. Mais à Paris, l'occupant nazi est partout. Et donc, chaque acte que l'on fait face à l'occupant ou qu'on ne fait pas, engage totalement l'individu. Mais c'est purement intérieur. C'est-à-dire que la vie, on est totalement libre et condamné à être libre, à prendre position. Alors, on le fait.
On a un vrai choix, disons.
On a un vrai choix. On ne peut pas faire autrement. Alors, justement, on est condamné à vouloir être quelque chose ou quelqu'un.
Alors ça, il le dit en 1944, et il arrive à Paris en 41. Alors on peut se demander quand même quelle a été la résistance de Sartre. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet, Denis Bertolet. D'abord, il adhère à un mouvement un peu vague qui s'appelle Socialisme et Liberté, avec de nouveaux copains ou des anciens. Il y a Merleau-Ponty, il y a Jean Toussaint,
avec
et
une partie de la famille. Il essaye de rejoindre un groupe et de constituer un groupe de résistants. C'est une histoire, au fond, qui a duré très peu, qui a duré quelques mois, qui était très velléitaire. Et qui n'a abouti à rien. Au fond, c'est une chose assez étonnante de voir Sartre et ses camarades se réunir et se demander qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour la France, essayer de glaner des renseignements, se demander à qui ils pourraient les communiquer sans avoir la réponse. Donc le mouvement a avorté.
Oui, mais ça, c'était le cas de tout. Les volontés de résistance de ces années-là, 40-41, j'ajoute que le Parti communiste n'est pas encore dans la résistance, puisque ils sont en prison, et surtout au début, ils n'ont pas protesté contre la guerre, parce qu'il y a eu le pacte germano-soviétique. Mais c'est vrai qu'il n'y avait plus d'organisation structurée, on ne savait pas très bien où se tourner, tous les mouvements l'ont fait. Alors cela dit, si c'est très velléitaire, c'est que cette organisation, Socialisme et Barbarie, refuse aussi bien le gaullisme, dont Sartre s'est toujours méfié, se méfiera toujours, et que le Parti communiste animait, disait Sartre, d'une espèce d'esprit de sérieux qu'il n'aimait pas du tout, je crois.
Qui dénonce très fortement l'esprit de sérieux du Parti communiste.
Oui, tout à fait. Bien sûr, d'autant qu'on accuse Sartre, lorsqu'il revient à Paris, d'être en fait envoyé par les nazis pour espionner les résistants. Donc
lui, oui.
Il ne peut pas y avoir d'accord. Et j'ajouterais quand même que je pense qu'il y a eu vraiment une résistance de Sartre. Bon, Sartre, c'était le résistant, c'était l'écrivain résistant, certes. Mais il faut, effectivement, pour ce que vous venez de dire, à l'époque, les mouvements de résistance ne sont pas du tout structurés. Et ce milieu intellectuel qui, effectivement, est très éloigné des partis institués, ne peut que essayer maladroitement de trouver des aimants. Mais il y a une résistance de Sartre.
Il y a cette donnée, fondamentale que Sartre n'est pas un homme d'action. Il est incapable d'être un homme d'action. Alors il rêve de cela, mais c'est pas son histoire. Et lui peut travailler. Et s'il doit agir, c'est à un autre niveau et par d'autres moyens. Et il lui a fallu un moment pour le comprendre.
Alors il rédige un projet de constitution pour une France future et rêvé. Il est membre quand même du Conseil national des écrivains. Cela dit, il travaille aussi. Il a écrit dans un journal qui était plutôt collaborationniste, qui était Comédia, de même que Simone de Beauvoir a quand même écrit des pièces radiophoniques pour Radio Vichy. Bah oui, ça s'invente pas. Tout le monde ne le dit pas.
Comédia, il s'est retiré très vite. Il avait, il débarquait du Stalag et il n'avait pas exactement compris.
Et Valérie, comment les choses a écrit dans ce journal. Donc Valérie comme collabo.
Bien sûr. Non, mais pas bon. Disons que c'était pas un résistant actif, activiste et très engagé. Cela dit, Malraux ne l'a pas été à la même époque. Il n'est pas rentré dans la résistance.
Non, je crois que ce serait un faux procès que de reprocher à Sartre de ne pas l'avoir
été. Ce qu'on lui a reproché quand même, Denis Berthollet et Bernard Lefort, c'est que il a, alors c'est un genre nouveau pour lui, hein, il se met, le philosophe, l'écrivain, le romancier, etc., se met à écrire des pièces de théâtre. Les deux premières jouées, écrites et jouées pendant l'occupation, Les Mouches, qui n'ont eu aucun succès, et en revanche, Huis Clos, L'Enfer, c'est les autres, qui paraît quand même sur les scènes parisiennes, en mai-juin 44, c'est-à-dire qu'au moment précis où les Alliés débarquent en Normandie, devant quand même la censure allemande, hein, qui fallait bien passer, on applaudit Huis Clos de Sartre.
Il a aussi demandé l'accord du Conseil National des Écrivains. Il a verrouillé des deux côtés.
Oui, il a reçu l'autorisation, c'est pas une pièce collabo. Il ne défend pas la gloire du nazisme dans ces deux pièces, au contraire.
Alors, il assiste à la libération de Paris, il est enthousiaste. Est-ce que, c'est ce que vous semblez dire, Denis Berthollet, il a toujours un peu regretté de ne pas avoir été, de ne pas s'être assez engagé concrètement dans la résistance?
Chez lui, il y a une rêverie qui vient de son enfance, c'est ses lectures de c'est Pardaillan, c'est les héros de Cap et d'Épée, et il aurait aimé, c'est un rêve, c'est un fantasme, dirais-je plutôt, qui court à travers toute l'œuvre de Sartre, qui court dans son théâtre, c'est extrêmement présent.
En 45, il a 40 ans, il avait eu largement le temps de le faire. Bernard Lefort.
À 40 ans, il a eu le temps de le faire, mais justement, il est peut-être trop tard. Une autre génération. La génération de la résistance, ce sont des gens qui ont 20 ans, hein, 20, 25 ans, ceux qui ont vraiment fait la résistance. Et puis Sartre vient déjà trop loin.
Ce n'est pas son tempérament, il n'est pas Pardaillan. Sartre a eu beaucoup de peine.
Il le sera un petit peu quand même, on le verra. À partir de 1945, ce sera les engagements de Sartre, la deuxième partie donc de cette série de deux émissions que nous lui consacrons dans 2000 ans d'histoire. Denis Berthollet, je rappelle que vous êtes l'auteur de Sartre, une biographie qui vient d'être réédité en poche chez Perrin, en collection Tempus. Et vous avez également écrit Sartre, l'écrivain malgré lui, publié chez Interfolio. Enfin, Bernard Lefort, vous venez d'écrire Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous, un essai qui a été publié chez Ramsay. À lire également Sartre, le catalogue de l'exposition de la BNF, dirigé par Morissette Bern, une coédition BNF Gallimard. Et puis Sartre, l'invention de la liberté, un très bon livre de Michel Conta, un livre magnifiquement illustré, publié chez Textuel. Enfin, il faut lire Sartre, bien sûr, l'essentiel de son œuvre qui est disponible en poche. Je signale d'ailleurs récemment, ça c'est pas en poche, la parution du théâtre complet de Sade aux éditions de la Pléiade. Vous avez pu entendre des extraits de Sartre par lui-même, un documentaire de Michel Conta et Alexandre Astruc. Enfin, à voir jusqu'au 21 août 2005, l'exposition Sartre à la BNF, cite François Mitterrand. D'autres références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Jean-Philippe Jeanne, Claire